fait un petit essai.
Allez. Faut que ce soit assez dégueu, contracté, hein, que ça fasse pas trop lecture non plus.
C'est bon ? Je pense que c'est bien.
France, 1970, environ. Daniel Charles, musicien, philosophe, s'entretient avec John Cage, compositeur. Silence, son, musique, composition, hasard, anarchie. Autant de thèmes de conversation pour aborder l'univers Cage. Une mise en voix par Étienne Noiseau et Jean-Marc Montera de Pour les oiseaux, réédité en 2002 aux éditions de l'Herme.
John Cage, je voudrais que vous parliez de cette libération du temps par les procédés de hasard tels que vous les avez utilisés.
Il y a eu le livre chinois des oracles, le I Ching. Mais avant le I Ching, j'ai travaillé avec des carrés magiques.
Comment vous en serviez-vous ?
Au lieu de nombres, je plaçais dans ces carrés des agrégats de forme. C'est de cette façon que j'ai écrit les 16 danses, ainsi que le concerto pour piano préparé dont nous parlions tout à l'heure.
Et comment en êtes-vous venu à demander conseil au I Ching ?
Christian Wolff est arrivé un jour. Il voulait étudier la composition avec moi. C'était quelqu'un de remarquable, et je crois que j'ai appris plus de lui que lui de moi.
Est-ce lui qui vous a fait connaître le I Ching ?
Oui, et voici comment. Je ne lui faisais pas payer les leçons. Or, son père était éditeur. Pour me remercier, Christian m'apportait des livres qu'éditait son père. Un jour, parmi eux, il lut le I Ching. À la vue des tables du I Ching, j'ai été frappé immédiatement par la ressemblance avec les carrés magiques. C'était bien mieux. Depuis ce moment, le I Ching ne m'a plus quitté.
Vous vous en servez même en dehors de la musique ?
Oui.
Et pour votre vie de chaque jour ?
Chaque fois que j'ai des problèmes, je m'en suis servi très souvent pour des choses pratiques, pour écrire mes articles, mes musiques, pour tout.
Et vous êtes arrivé cependant d'être infidèle au I Ching, lorsque vous vous êtes livré, par exemple, à l'observation des imperfections d'une feuille de papier ?
Oui, pour mes musiques for piano. À Darmstadt, un de mes étudiants m'a demandé un jour ce qu'il fallait faire sur une feuille de papier sans imperfection.
Mais pourquoi aviez-vous adopté ce procédé des accidents de papier ?
Me servir du I Ching exigeait, quand j'ai commencé, énormément de temps. Pour chacun des aspects de chaque son, pour chaque paramètre, si vous voulez, que j'ai décidé à tirer au sort, il me fallait procéder à une sextuple consultation des oracles.
À cause des hexagrammes ?
Oui. Il me fallait un temps considérable et une extrême précision. C'était le cas lorsque je composais le William Mix. Un jour, alors que j'étais en train d'y travailler, le téléphone se met à sonner et une danseuse me demande de lui écrire une musique de ballet immédiatement pour le spectacle. Je me suis dit alors qu'il me fallait trouver une manière de travailler qui fût rapide et non plus, comme c'était le cas le plus souvent, exagérément lente. Certes, j'entendais continuer à œuvrer pour Williams Mix et pour d'autres pièces, comme j'avais commencé à le faire en consultant normalement le I Ching, mais je désirais aussi disposer d'une manière très rapide d'écrire une pièce de musique. Les peintres, par exemple, travaillent lentement avec l'huile et rapidement avec les couleurs à l'eau. Eh bien, en réfléchissant à ce problème de la vitesse d'écriture, j'ai regardé mon papier et j'ai trouvé mes couleurs à l'eau. Soudain, j'ai vu que la musique, toute la musique, était déjà là.
Et vous avez perfectionné ce procédé ?
Oui, en superposant des transparents, eux-mêmes revêtus de lignes ou de points, je pouvais combiner les imperfections, les multiplier les unes par les autres.
Cela explique la complexité de certains types de notations de votre Concert for Piano and Orchestra de 58 ?
Et aussi de mes variations.
La première fois que l'on ouvre ce genre de partition, on ne peut qu'être frappé non seulement par le caractère inhabituel de bien des graphismes, mais aussi par la prolifération des techniques de hasard et des conceptions possibles de l'emploi du hasard que révèlent ces graphismes.
Et l'on peut dire surtout que si l'on regarde une feuille de papier vide, la page blanche de Mallarmé, il est possible de la comparer avec le silence. À la moindre tache ou éraflure, au moindre trou, au plus petit défaut, on voit qu'il n'y a pas de silence. Le vertige de Mallarmé est inutile.
Il y a toujours et partout des accidents.
Certainement.
Et votre Concert for Piano est un gigantesque répertoire d'accidents possibles.
Il faut mettre également en relation cet aspect de découverte des accidents avec mes études auprès de Schoenberg. Pour lui, il n'y avait que des répétitions. Il disait que le principe de variation représentait seulement les répétitions de quelque chose d'identique.
D'une cellule, d'une série ?
Oui. S'il y a variation, on a beau changer un élément, on peut toujours changer quelque chose. Il reste et demeure. Et cela annule la variation. Mais j'ai introduit dans cette opposition...
Dans la dualité répétition-variation ?
Oui. J'ai introduit dans cette idée schoenbergienne d'un couple répétition-variation, ou à côté de cette idée, une autre notion, celle de quelque chose d'autre, qui ne se laisse pas annuler.
Et de quelle instance autre parlez-vous ?
De cet élément qui ne peut venir en relation ni avec la répétition, ni avec la variation. De ce quelque chose qui n'entre pas dans la lutte de ces deux termes, et qui est rebelle à la mise ou à la remise en relation. Cet élément, c'est le hasard.
Est-ce ainsi qu'il faut définir le hasard ?
Il peut y avoir, il doit y avoir plusieurs événements qui se déroulent à la fois, ou bien successivement, sans aucun rapport. Si l'on admet ce point de vue, alors on n'est plus ni dans la répétition, ni dans la variation.
On est dans la désorganisation. Cela signifie-t-il qu'on est dans le chaos ?
Je me suis aperçu simplement en me promenant dans les forêts à la recherche des champignons qu'on peut bien dire qu'il y a une structure chez certaines espèces de champignons. Une certaine structure ou un certain art. Et on peut partir de là, considérer la structure et l'organisation comme très importantes. Si l'on observe tout, toute la journée, toutes les expériences, alors on ne peut plus parler de l'organisation. Alors l'art ou la structure s'estompe.
À un certain niveau, il peut bien y avoir de l'organisation, mais si l'on change d'échelle, il n'y a plus d'organisation.
Oui. Mais ce n'est pas comme dans les sciences. Il est possible de modifier la distance focale, mais une fois que c'est fait, on s'aperçoit qu'on n'a pas obtenu plus d'exactitude. On peut choisir un niveau plus poussé de précision, c'est encore flou. C'est toujours flou, comme si l'échelle bougeait sans cesse. C'est cela, mon concert Forpiano, une promenade en forêt.
Un peu comme dans le film intitulé John Cage, les images n'étaient jamais au point.
Eh bien, avec mon entrée dans le hasard et le passage des années, vous comprenez de quelle façon toutes les idées dont nous avons parlé, de structures et de méthodes et même de matériaux, tout cela s'est évanoui.
C'est une poétique de l'effacement.
Cela disparaît, cela s'en va, oui. Mais à l'instant même où tout s'en va, on peut dire aussi que tout est là.
Je note ce sentiment qui semble ne pas vous quitter, de la simultanéité de la présence et de l'absence de toute chose.
Nous le disions déjà à propos du zen.
Peut-on rapprocher de cette idée de la présence-absence l'affirmation de l'un de vos biographes, selon laquelle votre intérêt pour les champignons provient ou dépend du fait que dans un dictionnaire anglais, music et mushroom sont proches l'un de l'autre. Ils sont présents l'un à l'autre et pourtant ne sont pas reliés, autant dire qu'ils sont absents.
Oui, vous voyez également par là en quel sens le hasard comporte interpénétration et nœud d'obstruction.
Le plus proche et le plus lointain. Mais cela n'arrive que dans les dictionnaires.
Ou dans ma musique. Non, cela arrive partout et toujours. Pensez à cette commande que me faisait Merce Cunningham et à laquelle vous disiez que j'avais répondu par l'irresponsabilité. Entrer ainsi dans le hasard. Cela fait disparaître les préjugés, les idées préconçues, les idées préalables d'ordre et d'organisation. Croyez-vous que l'on perde quoi que ce soit ? Non, rien n'est perdu. Quand je réponds par le hasard, ce qui n'est pas une réponse, à une commande, cela ne blesse ni ne lèse au fond personne.
Sauf vous, vous perdez votre volonté.
Ce n'est pas bien grave. Et c'est simplement si j'agis comme cela avec les champignons, cela peut me tuer. Eh bien cela, je l'ai fait consciemment, comme une balance.
Vous oscillez consciemment entre la vie et la mort.
Comme nous le faisons tous.
Mais si vous évitez de vous laisser empoisonner par les champignons, vous admettez que la vie est préférable. Et elle ne l'est qu'au prix de l'acceptation d'une certaine organisation. Vous ne refusez pas complètement la structure.
Je ne conserve de l'organisation que ce qui est utile à la survie. Cela signifie que j'assigne à l'organisation la place qui devrait être la sienne. Les hommes agissent en général autrement. Ils organisent toutes choses et sans relâche. Et tout particulièrement, ce qui est inutile d'organiser, la musique par exemple, ils se dispensent par là d'organiser ce qui doit au contraire être ordonné, les utilités.
Je vois mieux à présent à quelle thèse sur le temps vous parvenez. Selon vous, il doit être possible, sans organiser le temps, c'est-à-dire sans s'assurer de lui, de le laisser être tel qu'il est.
Il faut pour cela mettre en présence beaucoup d'événements qui chacun ont leur propre temps et vivent leur propre vie.
Et par conséquent, ne se font pas obstruction les uns les autres, mais peuvent finalement s'interpénétrer toujours les deux notions clés de Suzuki.
Oui.
Je vois bien cela. Mais en même temps, je me demande si l'homme d'Occident peut y parvenir.
Pourquoi l'Orient et l'Occident auraient-ils à se faire obstacle? N'ont-ils pas commencé à s'interpénétrer?
La dimension du temps à laquelle vous entreprenez de convertir l'homme d'Occident, n'est-ce pas l'instant? Ne risquez-vous pas d'oublier alors tout ce que l'Occident déploie dans sa musique comme dans sa conception du temps, en termes de durée, d'avenir?
Mais l'instant, c'est toujours une renaissance, n'est-ce pas?
Est-ce nous qui renaissons?
Nous? Nous ne sommes plus là.
Vous récusez ainsi ce que Nietzsche envisageait sous le nom d'éternel retour?
Je dirais qu'il y a seulement éternelle renaissance, seulement cela.
Mais on pourra toujours vous reprocher, comme l'a fait Leonard Meyer, de sacrifier une valeur de durée qui était essentielle à la musique classique d'Occident.
Voulez-vous suggérer qu'il y aurait lieu de garder quelque chose?
Vous placez toute votre mise sur l'instant, mais le temps est-il une somme d'instants?
Le temps auquel vous pensez ici est encore une construction, une organisation intellectuelle. Il faut aller en deçà.
Est-ce vraiment possible ailleurs que dans le bouddhisme?
Il est très difficile d'en discuter, parce que l'expérience de la vie est différente pour chacun d'entre nous. Mais nous cherchons à faire éprouver à chacun, selon sa propre manière, sa propre expérience.
Vous refusez l'idée d'une durée construite. Pourquoi, en ce cas, avoir tenu à faire exécuter les vexations de Satie? Vous avez fait respecter les 840 d'Acapo, l'ensemble a duré 18h40, et vous aviez tout prévu, sauf l'extraordinaire impression qu'a produite cette musique répétitive. Vous êtes arrivé de dire que vous aviez par là mis en branle quelque chose d'absolument inouï et inattendu. Ce quelque chose, la musique de Satie, pourtant agencée selon les exigences d'une construction strictement répétitive du temps, croyez-vous qu'elle le portait en elle-même, malgré les répétitions?
Mais certainement. À propos de ces répétitions, le mieux est peut-être de citer la fameuse parole de René Char, « L'acte est vierge, même répété ».
Est-ce ainsi qu'il faut comprendre ce que vous avez dit quand nous parlions de Schoenberg, à savoir qu'il fallait sortir du cercle de la répétition et de la variation?
C'est précisément ce qui s'est produit avec les vexations.
Et ce qui, selon vous, était possible dans le cadre d'une musique totalement prédéterminée? Cela peut a fortiori se réaliser dans l'indétermination?
Je le crois.
Les 840 répétitions du texte musical de Satie aboutissent finalement à une indétermination comparable à celle de vos musiques que vous appelez indéterminées?
Oui, je sais bien que de notre point de vue, il y a des répétitions, mais rappelez-vous ce que j'ai dit sur le flou. On ne peut pas, même soi-même, répéter exactement. Et quand on a beaucoup de pianistes, comme c'était le cas...
On aboutit, vous l'avez dit à propos de votre concert pour piano, à un rassemblement de différences extrêmes.
Cela donne lieu à une expérience de temps et de variation que la dimension de ressemblance disparaît.
Ainsi que toute impression d'ennui.
Pour peu que nous décidions de faire autre chose que de nous ennuyer. Car l'ennui, c'est nous qui nous voulons. Dans l'expérience des vexations, comme dans les œuvres de Riley ou de Lamont Young, l'ennui ne surgit que si nous le suscitons en nous-mêmes. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que nous n'étions plus là. Il n'y a plus d'ennui dès lors qu'il n'y a plus d'ego. Nous avons ceci en commun, justement, ce que nous brisons avec notre ego, alors que nous renaît sans cesse, et il n'y a plus le moindre ennui.
Je vous objecterai pourtant à nouveau que cette expérience dont vous parlez et qui entraîne la suppression de l'ego, je vous objecterai qu'une telle expérience ne paraît guère accessible à des Occidentaux.
Mais ce que vous appelez l'Occident n'est déjà plus l'Occident.
Pour les oiseaux, une mise en voix d'Étienne Noiseau et Jean-Marc Montera, des entretiens de Daniel Charles avec John Cage. La suite, demain, 9h30, rediffusion 15h30.